Ce soir, mon cœur est vraiment étreint par les compassions de Dieu pour chacune de vos âmes. Et c'est vraiment un message de paix, un message d'amour que j'aimerais vous transmettre de sa part dans l'espoir éperdu que vous le recevrez et que vous vous abandonnerez désormais sans retour entre les mains de ce Père qui vous aime, de cet amour maternel dont nous parle le prophète Ésaïe quand il dit « Comme une mère console son enfant, je vous consolerai et vous serez consolés. » Il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Eh bien, nous désirons vivre une fois de plus cette soirée dans la présence d'amour de ce Père en ce 10 août 1982 et nous voulons nous recommander à sa grâce. Ô Dieu, toi que nous pouvons réellement appeler notre Père en Jésus-Christ, nous voulons ce soir nous laisser persuader par la puissance de ton Esprit que tu nous as donné. Nous ne voulons pas rester dans un état de trouble, alors que tu as tout fait pour que nous soyons dans la paix. Nous ne voudrions pas rester dans un état de tristesse, alors que ton propre Fils est venu sur cette terre pour nous apporter la joie du ciel. Nous ne voulons pas rester repliés sur nous-mêmes alors que Jésus, lui, a renoncé à lui-même pour que nous connaissions le vrai bonheur. Que ton Esprit opère avec une telle puissance parmi nous qu'il y ait ce soir dans les cœurs des miracles et des prodiges qui s'accomplissent pour la gloire de ton nom. Amen. Mes amis, hier, je vous ai parlé des desseins du diable, de l'adversaire de Dieu et par conséquent de l'adversaire de l'homme, celui qui voudrait entraver le grand dessein d'amour de Dieu pour ses créatures. Et ce soir, je voudrais revenir au dessein bienveillant de Dieu. Et pour cela, je vous lirai dans la seconde épître aux Thessaloniciens des paroles que l'apôtre Paul écrit à ses croyants de Thessalonique et qui vous feront réaliser les sentiments qui habitent dans mon cœur à l'égard de vous tous. Si vous avez reçu le témoignage que j'ai essayé de vous apporter. Si notre témoignage auprès de vous a été écrit au cours de ces dernières soirées, eh bien, Mes sentiments pour vous sont ceux-ci. Verset 11. Nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, de cet appel qu'il vous a adressé et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et un peu plus haut, l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens que quand le Seigneur reviendra en gloire, après avoir enlevé son Église et l'avoir rendue semblable à lui, il est dit qu'il redescendra avec les siens glorifiés. Et au verset 10 de ce chapitre 1er des Thessaloniciens, Paul soulignait que quand le Seigneur viendra, il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Et il ajoutait, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Est-ce que vous avez déjà réalisé qu'un jour, le Seigneur voudrait être glorifié en vous et qu'il voudrait que le monde entier puisse admirer en vous qui avez cru le Seigneur lui-même dans sa parfaite beauté? Est-ce qu'aujourd'hui, si l'on vous a regardé vivre, est-ce qu'on a pu réellement penser que le Seigneur était glorifié par votre vie aujourd'hui? Est-ce qu'on a pu admirer le Seigneur en vous aujourd'hui? Si nous avons arrêté nos yeux sur votre vie présente, sur vos paroles, si nous avons écouté vos paroles, est-ce que nous pouvons dire, oh, la vie du Seigneur produit ses fruits en eux et nous réjouir dans le Seigneur? Un jour, il en sera ainsi pour ceux qui auront cru. Un jour, le Seigneur aura accompli cela d'une façon parfaite. Mais est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, que répondez-vous à cette question? Est-ce que Jésus pouvait être glorifié dans ma vie? Est-ce qu'on a pu l'admirer en chacun de nous aujourd'hui? Alors ne vous découragez pas, si même vous devez confesser qu'aujourd'hui, eh bien, Jésus n'était pas admirable au milieu de vous ou en vous. Je lis maintenant un autre texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 23e. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservées irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé vous demande d'être fidèle et de vous efforcer d'y parvenir. C'est cela? Celui qui vous a appelé est fidèle. Et celui qui le fera. Cette œuvre parfaite. Celui qui le fera. Mais est-ce que nous le croyons aujourd'hui? 10 août. Que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Est-ce que nous sommes persuadés que c'est son plan glorieux qui va se réaliser? Ou bien est-ce que, regardant à ce que vous êtes encore aujourd'hui, vous continuez de vous décourager? Je vous ai prêché le découragement de vous-même en vous suppliant de détourner les yeux de vous-même et de regarder au Seigneur qui lui est votre vie et de vous imprégner de cette vie. C'est déjà ainsi que Dieu vous voit. Oh, si vous pouviez le comprendre par le Saint-Esprit. Oui, ma prière continuelle dans ces journées pour chacun de vous, car croyez-le, si même je dois vous dénoncer les ruses du diable, les pièges du diable, eh bien, ce n'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que je voudrais vous éviter des chutes et des désillusions. Nous prions continuellement pour vous. Vous nous êtes chers. Et pour vous, nous donnerions volontiers notre vie, comme le disait aussi l'apôtre. Je me dépenserai entièrement pour vos âmes. Même si en vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. Mais je vous pose cette question. Est-ce que vous croyez à la vocation à laquelle Dieu vous a appelé? À quoi vous a-t-il appelé? Dès les temps éternels, dès l'éternité, avant même de vous créer, quel était le but de Dieu en vous créant? Il vous créait pour la gloire éternelle. Et c'est à la gloire éternelle que vous avez été appelé. C'est pas à vivre médiocrement, c'est pas à vivre en dents de scie, avec des hauts et des bas constants, que le Seigneur vous a appelé. Il vous a appelé pour que vous ayez une vie droite, une vie qui se renouvelle de jour en jour, une vie qui reste toujours jeune, de cette jeunesse éternelle et qui est en Jésus. Je prie pour que Dieu vous juge digne de la vocation à laquelle il vous a appelé et je prie qu'il accomplisse par sa puissance, oh mes amis, c'est par sa puissance que ces choses peuvent être réalisées. C'est pas vous qui pouvez le faire. Mais voulez-vous le comprendre ce soir? C'est par sa puissance que les bienveillants desseins de Dieu, les bienveillants desseins de sa bonté s'accompliront. Et je vous demande, est-ce que vous les connaissez, ces bienveillants desseins de sa bonté? Nous avons vu le dessein du diable, les desseins du diable. Mais les bienveillants desseins de Dieu, est-ce que vous les avez devant les yeux? Qu'est-ce que Dieu a voulu pour vous d'abord? Il a voulu que vous deveniez ses enfants. Il ne vous a pas créé simplement pour que vous soyez ses créatures, de belles créatures, mais que vous deveniez ses enfants, réellement, participants de la nature divine, de cette nature qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il a voulu que nous participions à toutes ces perfections. Et si vous voulez connaître les perfections de Dieu, ce n'est pas simplement en regardant les œuvres de la création, les œuvres de la nature, que vous pouvez les connaître. Vous voyez sa puissance éternelle, sa divinité dans les œuvres qu'il a faites. Mais si vous voulez connaître, apprendre à connaître les perfections de Dieu, à qui devez-vous regarder? À Jésus. Et il est dit que toutes les perfections de Dieu ont été rendues visibles sur la face du Christ. C'est ça qui est merveilleux. Les perfections de Dieu, je les contemple quand je regarde mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà l'objet de ma contemplation. Voilà ce qui est tonique. Je n'ai plus à me regarder moi-même. Je sais ce que je suis. Je suis un figuier maudit. Est-ce que vous acceptez la malédiction du figuier? Quant à ma nature, je suis un figuier maudit et Dieu n'attend pas du fruit de moi. Est-ce que vous l'avez admis cela? Ah, c'est humiliant. Moi, je suis quand même un homme remarquable. J'ai quand même, je peux quand même avoir quelques prétentions. Puis vous me demandez de tout renier, de tout abandonner. Non, quand même. J'ai des qualités. Des qualités. Face à mes défauts. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ce n'est pas de cela que vous avez à vous occuper. Dieu vous dit, lui, comment il voit les choses. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tu viens toujours avec ce que tu as fait, avec ce que tu es. Puis après, tu sais très bien que ça ne va plus. Alors, finissez-en avec vous-même, une fois pour toutes. Portez sur vous-même le jugement du Seigneur. Je n'attends pas de fruit de toi. Et si le Seigneur a dit cela, au fond, s'il a maudit le figuier, eh bien, cette nature mauvaise qui produit des mauvais fruits, qui est-ce qui s'en est chargé? C'est lui, c'est Jésus. Et sur la croix, notre nature rebelle, pécheresse, a été crucifiée. De sorte qu'il n'est plus question de vous. Il est question du Seigneur, d'une vie de résurrection, d'un homme nouveau. Le vieil homme, votre vieil homme, a été crucifié. Vous n'avez pas à le faire mourir. Il est mort. Il y a un tas de gens qui cherchent à se mortifier et qui pensent que comme cela, le Seigneur pourra les bénir parce qu'ils renonceront à ceci, parce qu'ils renonceront à cela. Il n'est pas question de renoncer à des choses, il est question de renoncer à quoi? À soi-même. Et si vous avez bien compris cela, vous avez la délivrance. C'est la préoccupation du moi qui nous rend malheureux quand vous renoncez à vous-même, parce que le Seigneur vous l'a demandé. Hein. Tu veux me suivre? Renonce à toi. C'est tout ce que le Seigneur vous demande. Renonce à toi, puis viens, suis-moi. Et qu'est-ce que nous aurons en le suivant? Nous aurons sa vie à lui. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce n'est pas un titre comme cela que l'on se donne. Mais nous devenons enfants de Dieu, nous avons sa nature. C'est une relation réelle et vivante que nous avons avec Dieu. Et c'est une relation qui ne peut pas être brisée. Je suis triste de penser que plusieurs ont cru que j'essayais de leur faire douter de leur salut. Et plusieurs ont peut-être été ébranlés et se sont demandé si réellement ils étaient convertis. Mais mes amis, j'ai pas voulu vous faire douter. mais j'ai voulu que vous alliez au fond des choses. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans une relation qui ne peut pas être brisée. La relation d'enfant est la seule qui ne peut pas être brisée. La relation du mariage, vous savez qu'hélas, elle peut être brisée par le divorce. Les relations d'affaires peuvent aussi être brisées. On peut être associé et puis rompre une association. Mais nous ne sommes pas associés avec Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons sa nature. Un enfant peut être désobéissant. Un enfant peut attrister ses parents, mais il reste toujours l'enfant de son père. Alors, si vous avez reçu Jésus, vous êtes enfant de Dieu. Et je ne remets pas cela en question. Vous êtes enfant de Dieu. Mais étant enfant de Dieu, maintenant, vous participez à la discipline du Seigneur. Et étant enfant, eh bien, le Seigneur va vous montrer ce qui ne va pas dans vos vies, ce qui ne lui plaît pas, parce qu'il voudrait que vous ayez déjà un témoignage maintenant, et non seulement, quand lui reviendra et que vous, nous reviendrons avec lui. Alors, à ce moment-là, il est dit qu'il sera admiré dans tous ceux qui auront cru. Mais il voudrait déjà maintenant que le monde puisse dire, en voyant les chrétiens, eh bien, ce que nous voyons en eux, c'est quoi? Les doctrines? C'est Jésus. C'est Jésus. Les perfections de Dieu se sont manifestées dans la personne du Christ et on les voit resplendir sur la face du Christ. La connaissance de la gloire de Dieu se manifeste sur la face du Christ. Et quelle est cette gloire? Eh bien, c'est la sainteté. En Jésus, on a pu voir la sainteté, une conscience pure. Qui d'entre vous me convaincra de péché, disait Jésus. Et même ses ennemis avaient la bouche fermée. Eh bien, quand vous vivez avec le Seigneur, vous avez aussi une conscience pure. Cela, l'Écriture nous le montre, parce qu'on a su se juger et qu'on se juge quotidiennement de toute de tout manquement, d'une pensée, d'une parole qui n'était pas à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit en nous est attristé et nous comprenons ce qui se passe en nous et immédiatement nous portons sur nous-mêmes le jugement de Dieu. Et cette mort dont nous vous avons parlé, cette mort est une puissance qui nous permet de vivre vraiment de la vie de l'autre. Nous portons partout dans le corps la mort de Jésus, là où la vie de la chair voudrait se manifester, dans la foi je m'écris, mais tu es mort. Alors, il y a là la puissance du Saint-Esprit qui m'applique la mort. C'est cela qui suit la repentance. Quand on s'est vraiment repenti, lorsque nous avons entendu l'appel du Seigneur et que nous avons vu sa croix, eh bien, la repentance est suivie de cette mort à nous-mêmes, de cette mort quotidienne. Mais nous constatons cette mort. Nous sommes morts avec Christ. Donc, je dis ceci. Nous ne remettons pas en question votre relation avec Dieu. Vous êtes, si vous avez reçu le Christ, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes entré dans une relation avec le Père, relation qui ne peut pas se perdre ou être rompue. Et étant enfant de Dieu, maintenant, en Jésus-Christ, vous avez le pardon de tous vos péchés. Vous êtes pardonné, pardonné totalement. Nous ne mettons pas en doute ce pardon. Le Seigneur vous délivre de la peine du péché. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur qui? Sur Jésus. Nous ne serons pas jugés deux fois, nous avons été jugés en Jésus. Ça, c'est le premier aspect de la mort du Christ. Le Christ est mort pour nos péchés. Mais un second aspect que nous comprenons, c'est que non seulement Christ est mort pour nos péchés, mais que nous, nous sommes morts avec lui. Il nous a pris en lui, dans sa mort, nous les pécheurs, pour que nous ne péchions plus. Parce qu'un pécheur, eh bien, un homme qui est mort, il n'est plus soumis au péché. Le péché ne domine plus sur un mort. Et il faut que le péché trouve en nous des morts. Des morts. Et cela, nous voulons le croire par la foi. Nous avons été ensevelis avec le Christ dans le baptême en sa mort, afin que maintenant nous vivions en nouveauté de vie. Donc maintenant, la question du péché ne doit plus revenir toujours sur le tapis et nous occuper. Maintenant, nous sommes dans le Christ ressuscité. Est-ce que vous avez passé par là? Est-ce que c'est quelque chose de définitif? Est-ce que pour vous, la page est tournée? Ou bien est-ce que vous revenez toujours en arrière? L'apôtre nous dit qu'il y a des choses qu'on doit juger définitivement. Nous sommes morts avec Christ. Et maintenant, notre vie, c'est celle du Christ. Mais alors, pour qui est cette vie? Pour qui est-ce que le Christ ressuscité vit-il? Pour Dieu. Il vit pour Dieu. Alors, le sens de votre vie maintenant, de sauver, elle est pour Dieu. Il n'y a pas d'autre issue. Votre vie, elle est pour Dieu. Vous n'avez pas à vous poser des questions. Votre vie, elle appartient à Dieu. Il vous a racheté. Votre vie, elle est pour Dieu. Alors, étant devenu son enfant, c'est lui maintenant qui va s'occuper de vous. Et c'est lui qui va vous faire l'éducation dont vous avez besoin, comme il fait mon éducation. Et maintenant que je suis l'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu me dit? Eh bien, qu'il est le Dieu de paix et qu'il veut me sanctifier lui-même tout entier. Et qu'est-ce qu'il veut sanctifier? Qu'est-ce qu'il veut consacrer? Qu'est-ce qu'il veut mettre à part? Eh bien, mon être tout entier, il est composé de quoi? De mon esprit, de mon âme et de mon corps. Comme Dieu est Trinité, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, et nous avons, nous aussi, trois parties dans l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit qui est la partie invisible de notre être. Dieu est esprit, et c'est par notre esprit que nous communiquons avec Dieu, avec le monde invisible. Et puis, le corps, eh bien, c'est la partie visible de notre être. C'est ce que le monde voit de nous. Il voit, non pas notre esprit, mais il voit notre corps. Et c'est par notre corps que nous communiquons, au fond, avec le monde. Dans notre esprit se trouve le siège du sentiment de Dieu, et dans notre corps, le siège du sentiment du monde. Dieu habitera dans notre esprit, mais dans notre corps, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le siège des sens. Nos sens sont dans notre corps. Et alors, l'âme, eh bien, l'âme, c'est la vie psychique. L'âme, c'est la partie intermédiaire entre l'esprit et le corps. L'âme, c'est ce qu'on appelle les émotions, les sentiments, la volonté, l'intelligence, tout cela fait partie de l'âme, ce qui fait notre personnalité. Notre personnalité, c'est l'âme. Le moi habite dans l'âme. Si l'esprit est le siège du sentiment de Dieu, le moi habite dans l'âme. L'âme est le siège du sentiment de soi. Et puis le corps, le siège du sentiment, le siège de nos sens. Alors, quand Dieu avait créé Adam, il avait créé son esprit pour être comme la lampe, sa lampe dans l'homme. L'esprit de l'homme, dit l'Écriture, est une lampe du Seigneur qui sonde toutes les profondeurs du cœur. Dieu allait dominer l'homme par son esprit. Alors, tant que Dieu était en contact avec l'homme, l'esprit qui était comme sa lampe éclairait toutes les facultés de notre âme, l'intelligence, la volonté, les sentiments, les émotions, tout était sous le contrôle de l'esprit et l'âme gouvernait le corps, c'est-à-dire dominait les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Tout cela était contrôlé par en haut, par les facultés de l'âme qui elle-même était soumise à l'esprit. Et c'est ainsi que Dieu aurait voulu que l'homme soit amené à manger du fruit de l'arbre de vie et il serait devenu ainsi de créature qu'il était. J'étais très ému en entendant ce cantique. Il me semblait revivre une nuit de 18 heures dans un train qui me ramenait de Bruxelles à Bâle, une ville de Suisse. J'avais été appelé à retourner dans mon foyer. Et là, je devais retrouver la mère de mes enfants dans le coma. Et lors de ces 18 heures de train, c'était juste à la fin de la guerre, je me sentais à certains moments affreusement seul. Je venais de faire un mois de conférence dans ce pays de Belgique, et les réunions duraient jusqu'à 3 heures du matin, tant les âmes avaient faim et soif de la parole de Dieu, quand un télégramme est venu m'avertir que un drame se passait dans ma famille. Et je me souviens, dans le moment la plus grande détresse, en hiver, dans cette nuit, j'ai entendu ce cantique résonner dans mon cœur. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Ce que peuvent les cantiques à certaines heures de notre vie. Et cela, ça nous marque. C'est pourquoi je vous invite vraiment à apprendre par cœur des cantiques. Et puis tout à coup, le Saint-Esprit vous les rappelle et puis vous permet de surnager au sein de votre épreuve. Ceci dit, nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Ô Dieu notre Père, nous désirons passer encore une fois cette soirée en ta présence et nous te demandons de nous donner à tous le baume que ton cœur possède pour toutes les blessures de nos propres cœurs, afin que réellement nous connaissions tes soins de bon berger qui restaure nos âmes pour nous conduire ce soir vers des eaux paisibles. Que dans ta grâce, tu nous fasses goûter à ces verts pâturages et que tu nous désaltères toi-même à la source des eaux vives, et que même au sein de la vallée de l'ombre de la mort, nous puissions réaliser que nous n'aurons rien à craindre, car tu seras avec nous parce que tu es déjà avec lui, maintenant, et tu l'es tous les jours, jusqu'à la fin de l'âge. Que ta bénédiction nous couvre ce soir, et que tu nous donnes des cœurs ouverts pour recevoir la surabondance de ta grâce. Nous te le demandons, au Père, dans le nom de Jésus, auquel tu ne refuses rien. Amen. Amen. Je vais relire les textes que nous avons lus hier soir dans la deuxième épître aux Thessaloniciens et dans la première. Nous lisions que lorsque le Seigneur reviendra, en ce jour-là, il sera glorifié dans ses saints, verset 10 du chapitre 1er de la deuxième épître, et il sera admiré dans tous ceux qui auront cru. Et nous rappelions que nous devions tendre à ne pas attendre ce jour où le Seigneur nous présentera au monde dans une perfection absolue. Mais puisque nous sommes destinés à cela, selon le plan éternel de Dieu, à être vus dans nos corps de gloire pour manifester les perfections du Seigneur, puisque nous savons que nous sommes appelés à cela, que nous puissions déjà comprendre qu'aujourd'hui, le Seigneur est digne d'être vu en chacune de nos vies, au sein même de notre faiblesse et de nos corps de chair. Que ce ne soit pas la chair qui se manifeste, mais le Seigneur dans notre chair mortelle. Et nous lisions encore ces versets qui suivent, verset 11. Nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté est l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et je terminais par ce vœu de l'apôtre Paul que nous trouvons au chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens, au verset 23e. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et nous bénissons Dieu pour cette promesse et nous croyons éperdument qu'il en sera ainsi. Oui, mes bien-aimés, hier, nous avions à cœur de vous parler des bienveillants desseins que Dieu, dans sa bonté, désirait accomplir par sa puissance en chacune de nos vies, afin de réaliser finalement son plan éternel d'amour pour chacun d'entre nous. Et nous soulignons encore que rien ne peut faire obstacle à la volonté de Dieu qui désire nous bénir sans mesure. C'est le désir de son cœur. La chute de l'homme n'a pas anéanti le plan de Dieu pour sa créature. Dieu, avons-nous vu, est intervenu pour libérer, premièrement, l'homme de la peine, du péché, de la condamnation. C'est, je le pense, l'aspect le plus connu de la mort du Christ. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, dit l'apôtre Paul. Et nous savons maintenant qu'à cause du sacrifice du Christ, mort pour nos fautes, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand on a reçu Jésus-Christ mort pour nos fautes, eh bien, nous nous trouvons justifiés par la foi. Et la première conséquence de cette justification par la foi, c'est que nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Quant à tout notre passé, et mettez tout dans votre passé, hein, nous avons la paix avec Dieu. Votre passé n'a plus à vous troubler. Ce passé a été couvert par le sacrifice de Jésus-Christ, et vos péchés, quels qu'ils soient, ne reviennent pas dans la mémoire du Seigneur. Je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos iniquités. Et pour que nous soyons nous-mêmes aussi libérés et heureux, jouissant de ce salut, le psalmiste disait au psaume 103, que autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est éloigné de nous, nos transgressions. Il ne veut pas que nous vivions dans le souvenir de nos fautes, parce que cela nous paralyserait. Si Pierre, l'apôtre, avait vécu dans le souvenir de ses fautes, il n'aurait jamais pu dire, une fois restauré par le Seigneur, il n'aurait jamais pu dire aux Juifs, par exemple, « Vous avez renié le Saint est le juste. » C'est justement une parole qui ne serait jamais sortie de sa bouche, parce que il se serait dit, je ne peux pas leur dire cela, car moi, j'ai renié le Seigneur. Mais il est tellement libéré de son passé qu'il peut dire aux autres, vous avez renié le Saint est le juste. Vous n'avez pas à vivre dans le souvenir de vos fautes. Et ça, c'est une des tactiques du diable, de ramener toujours un non, non et non. Arrière de moi, Satan. J'ai la paix avec Dieu pour mon passé. Et puis, nous voyons que pour le présent, nous avons trouvé accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous sommes, pour le présent, dans la vie présente, les objets de la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est surabondante et pleinement suffisante. Aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu et nous vivons de la grâce de Dieu, sauvés par grâce. C'est cette grâce qui nous enseigne, c'est en elle que nous trouvons la force quotidienne, et puis nous expérimentons dans nos épreuves que cette grâce est parfaitement suffisante. Et puis pour notre avenir, eh bien, cette œuvre de Christ, ce salut qu'il a accompli au calvaire pour nous, nous assure pour l'avenir la gloire. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est tellement beau. Pour le passé, la paix. Pour le présent, la grâce. Pour l'avenir, la gloire. Voilà les desseins bienveillants de Dieu. Nous libérer du passé, nous assurer notre présent et nous donner cette espérance merveilleuse qu'après la grâce, nous connaîtrons la gloire. Selon la merveilleuse parole du psalmiste dans le psaume 84, il donne la grâce et la gloire. Le Seigneur, l'Éternel, est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il y a donc une unité merveilleuse entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Plus de condamnation pour nous. Et nous avons l'assurance de notre salut. Nous sommes entrés avec Dieu dans cette relation unique d'enfant avec le Père. Et comment? En recevant Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si vous avez reçu le Christ, vous êtes enfant de Dieu et vous n'avez plus à remettre en question votre filiation avec le Seigneur. On peut avoir des manquements comme enfant de Dieu, mais on participera alors à la discipline du Seigneur. Il saura nous reprendre, il saura nous corriger, parce que il nous considère réellement comme ses enfants. Mais dans les voies éducatives du Seigneur, vous pouvez être toujours sûr qu'il n'y a jamais de colère. Il n'y a plus de colère pour nous. Dieu ne peut plus être en colère contre nous. Sa colère s'est détournée. Elle a frappé qui ? Le Christ sur la croix. Et il a épuisé toute la colère de Dieu. Il n'y a plus de colère, dit le prophète Ésaïe. Il n'y a plus de colère pour nous. Sa colère s'est détournée. De sorte que quand nous sommes châtiés, nous savons que ce n'est jamais dans sa colère, mais il nous châtie comme un père châtie son fils qu'il agrée. Et justement parce qu'il aime. Celui que le Seigneur aime, il le discipline. Alors nous acceptons cette discipline du Seigneur et nous sommes heureux d'être corrigés par lui. Alors, devenu enfant de Dieu, donc par la foi au sacrifice du Seigneur, nous avons une pleine assurance. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Mais par la mort de Jésus, Dieu a fait plus encore que de nous délivrer de la peine du péché. Il a voulu que nous soyons délivrés de la puissance du péché, en nous identifiant par la foi à l'œuvre de Christ pleinement accomplie sur la croix. Non seulement ce que nous devons comprendre, Jésus nous a pris nos péchés et a subi la condamnation, mais il nous a pris, nous, les pécheurs, avec lui. Il nous a pris avec lui dans sa mort. Et Dieu veut que nous considérions que la mort de Christ est notre mort. Et cela, nous l'acceptons par la foi. Et que notre mort dans le Christ, c'est notre mort à quoi ? Au péché. Nous-mêmes, nous sommes morts au péché. Christ est mort pour nos péchés, mais il nous a pris dans sa mort, et maintenant, nous devons nous considérer comme morts au péché. C'est ainsi que Dieu nous voit. Nous sommes pour lui morts au péché dans la mort du Christ. Et pour Dieu, cette mort est chose faite une fois pour toutes. Et comme vous savez que le pardon de Dieu, vous l'avez une fois pour toutes par le seul sacrifice du Christ, eh bien, votre mort au péché, elle a été faite et vous devez croire ce que la parole de Dieu dit. Elle nous présente toujours notre mort comme un fait accompli. Nous n'avons pas à mourir, mais nous sommes morts. Et c'est cela que la foi saisit. Puisque Dieu nous le dit, je ne regarde pas à ce que je ressens, mais je regarde à ce qu'il dit. Alors si Dieu dit je suis mort, il dit la vérité, indépendamment de ce que moi j'éprouve et de mon expérience personnelle. La foi n'a rien à faire avec nos sentiments et nos expériences. À notre tour, donc, nous devons nous considérer comme morts. Il y a quelque chose d'irréversible dans cette vérité. Et nous fondons notre assurance sur un événement qui est passé. Et quel sera l'événement futur qui arrivera quand Jésus reviendra pour nous prendre auprès de lui? Alors, quand il reviendra, nous serons à jamais délivrés de la présence du péché. Nous connaîtrons ce salut final, le salut de nos corps. Dans le salut, il y a trois phases. Il y a le salut de notre âme, Christ mort pour nos péchés, et puis la délivrance de la de la puissance du péché, le péché ne règnera pas sur vous puisque nous sommes morts, le péché n'a aucune puissance sur un mort, et bien nous croyons que nous sommes morts, c'est une question de foi, comme j'ai l'assurance de mon salut, j'ai maintenant l'assurance que je suis mort. Et vous avez à participer à cette assurance, vous avez à saisir cela par la foi, vous n'avez pas à mourir, vous êtes mort. Dieu vous le dit. Comme il vous a dit qu'il n'y avait plus de condamnation pour vous. Mais ce qui reste à faire, c'est que nous sommes encore dans un monde où le péché règne, où le péché domine, mais un jour nous serons retirés de ce monde et alors nous serons délivrés de la présence du péché pour nous en aller pour toujours vers le Seigneur et nous connaîtrons le salut alors de nos corps. Il y a le salut de l'âme, il y a le salut dans la marche, où nous sommes délivrés de la puissance du péché, et puis il y a le salut de nos corps. Nos corps mortels connaîtront la victoire du Seigneur. C'est là le bienveillant, un des bienveillants desseins de Dieu. Et ces bienveillants desseins de Dieu m'amenaient hier soir à vous parler de ce merveilleux texte de 1 Thessaloniciens 5, verset 23e, où nous voyons les trois parties qui compose l'homme tout entier. Et c'est vraiment remarquable de voir dans quel ordre ces parties nous sont données. La plupart du temps, quand nous parlons de la constitution de l'homme, on dit qu'on est une âme et un corps, hein, ou bien on dit qu'on est un corps, une âme et un esprit. On commence toujours par en bas, nous. Corps, âme et esprit. Quand Dieu vit, nous parle de l'homme tout entier, il commence par l'esprit, l'âme et le corps. Voilà l'ordre divin. Esprit d'abord, âme et corps. Tandis que nous parlons toujours corps, âme et esprit. Hein. Mais ça, c'est notre manière. Mais la manière de Dieu, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc nous sommes nous aussi trinité dans un certain sens. Et nous devons nous laisser enseigner par la parole pour voir les nuances qu'il y a entre l'âme et l'esprit, par exemple, parce que bien souvent on confond âme et esprit. Et certains vous disent, mais enfin, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Vous êtes bien sûr que ce ne sont pas des synonymes. Non, ce ne sont pas des synonymes. Je vous citerai seulement un verset pour que vous ayez bien la preuve que je n'amène pas ici mes propres pensées. Au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci, verset 12e. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à du tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Donc ici, l'Écriture nous montre bien qu'il y a une différence entre âme et esprit. Ce n'est pas synonyme. Ce qui est dit ici, c'est que l'esprit, l'âme et le corps sont promis, selon saint Paul, à une sanctification parfaite. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'être complet, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit est sanctifié, conservé irrépréhensible quand il est pénétré et conduit par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint qui fait régner la vie et la lumière divine. Alors l'esprit est sanctifié par le Saint-Esprit qui y règne. L'âme est sanctifiée quand toutes les impressions, les affections, passions, les désirs dont elle est le siège, sont sous la domination de l'Esprit sanctifié lui-même et non sous l'empire de la chair et du monde. L'âme doit être donc contrôlée par l'Esprit. Et c'est alors qu'elle est sanctifiée, mise à part, consacrée. Enfin, le corps, lui, puisqu'il est dit que l'Esprit, l'âme et le corps sont sanctifiés entièrement, le corps est sanctifié quand ses appétits, ses besoins sont élevés et purifiés par l'influence respective de l'âme et de l'esprit, et quand les membres de notre corps et toutes ses forces servent d'instruments à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors là, le corps est sanctifié. Un corps qui sert d'instrument à Dieu. Livrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ainsi, nous voyons que notre christianisme ne peut jamais être qu'un christianisme de l'âme, un christianisme intérieur. C'est dans le corps aussi que la manifestation de la vie divine veut être prouvée. Alors, dans cette hiérarchie, nous voyons que l'esprit doit régner sur l'âme et sur le corps. Et cela m'a amené hier soir à vous préciser le rôle que devait jouer l'esprit, l'âme et le corps dans le plan de Dieu. Quand Dieu a prédestiné l'homme qu'il allait créer à la gloire éternelle, eh bien, quel était le rôle de l'esprit dans l'homme, selon la pensée de Dieu? Quel était le rôle de l'âme dans la pensée de Dieu? Et quel devait être le rôle du corps? Alors, je veux simplement abréger, mais l'Écriture nous dit que l'esprit devait être la lampe du Seigneur, qui devait éclairer l'homme tout entier. L'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur. L'esprit, selon les Écritures, c'est la partie supérieure de notre être, la partie invisible de notre être, la partie immortelle de notre être. Quand nous mourons, le corps retourne à la poussière, mais l'esprit retourne à Dieu et qui l'a donné. Alors, cet esprit, donc, partie invisible de notre être, nous permet d'entrer en communication avec le monde invisible, d'entrer en relation avec Dieu qui est esprit. C'est par notre esprit que nous entrons en relation avec Dieu et qui est partie donc invisible et supérieure de notre être. Puis, nous parlons de l'âme. Eh bien, l'âme, c'est la partie intermédiaire entre le corps et l'esprit. Et dans la pensée de Dieu, si j'ose dire ainsi, l'âme devait être l'économe de la maison humaine. L'âme, disions-nous, c'est la vie psychique. L'âme, c'est ce qu'on appelle le cœur, les sentiments, la volonté, la mémoire, toutes ces puissances de l'âme devaient être sous le contrôle de l'esprit, devaient être éclairées par cette lampe du Seigneur. L'intelligence de l'homme, sa volonté, devait être sous le contrôle de l'esprit qui lui-même était en relation avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, le contrôle divin était établi sur les puissances de l'âme, et cette âme, dans laquelle nous avons le sentiment de soi, le moi, notre moi, habite dans notre âme, eh bien, devait contrôler le corps. Et le corps, donc, en opposition à l'esprit, le corps est la partie visible de notre être. C'est par notre corps que nous entrons en relation avec le monde. par notre esprit, nous entrons avec le monde invisible, avec Dieu, et par notre corps, nous entrons en relation avec le monde. Notre corps est donc la partie matérielle de notre être, et c'est dans notre corps que se trouve le siège du sentiment du monde, et qu'habitent nos sens. Nos sens se trouvent donc dans notre corps. Et ce corps, soumis aux directions de l'âme, devait être le serviteur. Si je prends la maison humaine, le maître de la maison devait être l'esprit. L'âme devait être, si j'ose dire ainsi, l'économe, et puis le corps, le serviteur. Dieu dominait l'homme par en haut. Et si l'homme était resté dans la dépendance de Dieu, s'il s'était approché de l'arbre de vie, eh bien, il devenait ainsi, par ce fruit de l'arbre de vie, enfant de Dieu, ce qu'il n'est pas devenu puisqu'il a choisi le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a désobéi. Et le péché, qui est une désobéissance de l'homme, ce péché a automatiquement coupé le fil, coupé la relation que l'homme avait avec Dieu. Et alors, puisque l'esprit de l'homme était une lampe, si le contact est coupé, qu'est-ce qui arrive? C'est éteint. Alors, l'homme tout entier est tombé dans les ténèbres. L'esprit est en quelque sorte mort, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe plus, hein. La mort n'est pas cessé d'exister, mais il est dans un état de mort. Il ne commande plus. Il est là, mais il a besoin d'être vivifié, d'être régénéré. Mais l'esprit de l'homme irrégénéré est dans la mort spirituelle. Et alors, l'âme, qui est donc, comme je l'ai dit, la volonté, l'intelligence, eh bien, au lieu d'être soumise aux directions de l'esprit, puisque l'esprit est mort, qu'est-ce qui est devenu le maître de la maison? C'est le corps. Et si vous regardez bien, le diable a attaqué Adam par les portes du corps, par les sens, par la porte de la vue, par la porte de l'ouïe, par la porte du goût, etc. Et c'est ainsi que l'attaque de Satan a eu lieu. Le diable nous attaque toujours par en bas, tandis que Dieu, lui, règne d'en haut. Alors, Satan a établi son pouvoir sur l'homme par ses convoitises. Et le diable est devenu, au fond, l'inspirateur de toutes ces passions que nous voyons dans notre corps. Nos sens sont devenus, au fond, pour Satan, une occasion extraordinaire d'établir sa domination sur nous. Et l'âme, dans tout cela, est devenue la servante du corps. Ce sont les appétits du corps qui souvent conduisent des gens extrêmement intelligents à faire des choses atroces. Et ce que nous voyons dans le monde, c'est que c'est vraiment Satan qui règne, et qui règne en flattant les passions d'en bas, les passions de la chair. Dieu nous dit dans l'Écriture, au chapitre 6 de la Genèse, qu'après la chute, l'homme n'était devenu que chair, âme et corps. L'esprit était, pour ainsi dire, éteint. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on se convertit au Seigneur? Quand on se tourne vers celui et qui était préconnu dès avant la fondation du monde pour venir réparer la faute de l'homme et rétablir l'homme dans un contact, dans une relation avec Dieu. Qu'est-ce qui se produit? Bien, le Saint-Esprit, comme vous le voyez au chapitre 1er de la Genèse, planer au-dessus de ce chaos qui est décrit au chapitre 2, au verset 2 du chapitre 1er de la Genèse, la terre était désolation et vide. C'est bien une image de l'âme après la chute. Notre âme est dans la désolation. Nous connaissons le vide. Mais au-dessus de tout cela, de ce tohu-bohu, au-dessus de tout cela, l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu plane au-dessus de vos âmes, au-dessus de chacun de nous. Et quand nous laissons le Saint-Esprit opérer et nous convaincre, et qu'il tourne nos yeux vers le Seigneur, qu'il nous montre notre misère, parce que le Saint-Esprit nous convainc de quoi? De péché. Mais une fois qu'il nous a convaincus de péché, il nous convainc de quoi? De justice. Il détourne nos yeux de nous-mêmes et nous montre notre justice en qui? En Christ, n'est-ce pas? Et dès l'instant où vous croyez au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans votre esprit. Et c'est lui qui opère cette régénération. C'est pas l'eau du baptême. C'est le baptême de l'Esprit qui vous régénère. Et alors, notre esprit, alors que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, notre esprit revient vraiment à la vie. Nous, c'est une vraie résurrection spirituelle. Une partie de notre résurrection a déjà eu lieu quand nous croyons au Seigneur Jésus. De mort spirituelle que nous étions, nous devenons vivants. Nous vivons pour qui? Pour Dieu. Et alors, la lampe éclairant de nouveau l'homme tout entier, eh bien, c'est l'Esprit qui va maintenant dominer l'âme et asservir le corps. Mais l'âme qui était si longtemps dirigée par en bas, par le corps, hésite. Et c'est là ce combat que vous connaissez après votre conversion. L'Esprit a été régénéré. La lumière est venue. Je ne sais comment la lumière éclaira tout mon cœur. Voilà que l'âme est éclairée par en haut. Mais l'âme a été si longtemps asservie aux directions du corps qu'elle a de la peine, elle aussi, de revenir à la direction de l'Esprit qui lui-même est soumis à l'Esprit de Dieu. Alors, que faut-il? Eh bien, il faut laisser l'œuvre de Dieu opérer en nous. Quand il a commencé une bonne œuvre, il l'a poursuivie. Et qu'est-ce qu'il veut établir? Oh, que Dieu vous donne de le comprendre, cette promesse de Jésus. Celui qui croit en moi, n'est-ce pas? Et celui qui m'aime, il sera aimé de qui? De mon Père. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. En quelque sorte, le Père vient habiter dans notre esprit. Nous sommes en relation avec le Dieu invisible, le Père Tout-Puissant, qui vient habiter dans notre esprit. Et pour que réellement notre moi ne nous conduise plus selon les directions d'en bas de la chair, que ce qui vient habiter dans notre âme, le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La vraie personnalité du chrétien, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Christ. C'est le Christ. Et c'est cela, vous devez mettre aussi votre personnalité sur l'autel du sacrifice. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui va prendre possession de ma volonté. C'est sa volonté qui va remplacer la mienne. Ce sont ses pensées qui vont remplacer les miennes. J'admets maintenant que mes pensées étaient mauvaises et je laisse maintenant le Christ penser en moi, que toutes nos pensées soient amenées captives à l'obéissance du Christ. Nos affections, ce seront les affections du Christ. Je vous chéris, dit saint Paul, dans les entrailles de Saul de Tarse, dans les entrailles du Christ. Les entrailles de Saul de Tarse, c'était des entrailles de fer. Il pouvait voir le sang d'Étienne couler sans s'émouvoir. Mais maintenant, ce Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, a les entrailles du Christ. C'est l'amour du Christ qui aime en lui. Et voyez-vous, c'est pourquoi il a dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Si vous laissez le Christ prendre la place dans votre âme, c'est lui qui aimera, c'est lui qui pensera. C'est lui qui parlera, c'est lui qui agira. Le Christ qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il doit avoir toute la place dans notre âme. Et nous sommes ainsi renouvelés dans notre intelligence. Et nous sommes renouvelés dans notre volonté. Ça devient un plaisir de faire la volonté de Dieu. Plus qu'un plaisir, ça devient notre nourriture. C'est ce que le Christ disait. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est quelque chose d'admirable, c'est quelque chose de merveilleux. Et voyez-vous, si les chrétiens faisaient la volonté de Dieu, ils ne se plaindraient plus de leur pasteur ou de leur prêtre. Parce que ils auraient une nourriture. On dit toujours, oh, nous n'avons pas de nourriture dans notre église. Ben, faites la volonté de Dieu et vous serez nourris. Faites la volonté de Dieu vous-même et vous serez nourris. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ne vous attendez pas toujours aux autres. Accomplissez la volonté du Seigneur et vous serez nourris. Les affections du Christ dans notre vie, quel bonheur. Que le Christ habite en nous. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est un idéal que je vous présente? Non, c'est la vérité. C'est la base. C'est ce qui est essentiel et c'est ce qui est réel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et alors, dans notre corps, qui est-ce qui va prendre possession de tous nos membres? Le Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, eh bien, nos membres qu'autrefois nous employions pour accomplir nos convoitises, pour accomplir nos péchés, ces membres, nous les employons pour... C'est-à-dire, ils sont employés par qui, si nous les livrons à Dieu? Par Dieu. Comme des instruments de justice pour accomplir la volonté du Père. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà le changement qui est opéré à la conversion. De nouveau, c'est Dieu qui agit sur l'homme et qui le rend dépendant de lui. Et si nous nous laissons ainsi remplir par cette plénitude, eh bien, nous serons à la gloire de Dieu et des œuvres à sa gloire seront accomplies en nous. Voilà ce que j'avais à cœur de vous dire hier soir, pour vous montrer que dans le plan divin, pour marcher vers son accomplissement, Dieu voudrait déjà faire sa demeure dans nos vies, l'homme tout entier, Dieu tout entier, dans l'homme tout entier. Et pour terminer ce soir, je voudrais simplement vous donner encore quelques notions au sujet de ce qui est appelé le vieil homme dans le Nouveau Testament. Le vieil homme et le nouvel homme. Pour bien vous montrer qu'au sujet du vieil homme, il est dit qu'il est mort. Il n'a jamais été question de crucifier le vieil homme ou de faire mourir le vieil homme. Il est question de croire que le vieil homme a été crucifié. Qu'il n'a pas à être crucifié, mais que cela est fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vieil homme? On retrouve trois fois dans l'Écriture ce nom de vieil homme. Dans le chapitre 6 des Romains, dans le chapitre 4 des Éphésiens et dans le chapitre 3 des Colossiens. Qu'est-ce que le vieil homme? Le vieil homme qui est mis en opposition avec qui? Le nouvel homme. Hein? Il y a le vieil homme et puis il y a le nouvel homme. Alors, qu'est-ce que le vieil homme, selon tous les passages de l'Écriture? Eh bien, le vieil homme, c'est ce que Pierre appelle notre ancienne manière de vivre. Le vieil homme égale notre ancienne manière de vivre. C'est de cette manière-là que nous vivions avant notre conversion. Ce qui nous caractérisait avant notre conversion, ben, c'était le vieil homme. Ce vieil homme était l'enfant de qui? Eh bien, selon l'Écriture, il était l'enfant du péché et de la chair. La chair a convoité, et puis le péché est venu, et ça a donné quoi? Le vieil homme. Quand le péché est entré dans la chair, le péché, la convoitise ayant conçu, a enfanté le péché, et puis le péché a provoqué la mort. Eh bien, le vieil homme, c'est l'enfant, si j'ose dire ainsi, de la chair et du péché. C'est notre ancienne manière de vivre. Dans le péché, nous accomplissons les convoitises de quoi? De la chair. Au fond, la mère du vieil homme, c'était la chair. Et le père du vieil homme, le péché. Alors maintenant, prenons le nouvel homme. Qui sont les parents du nouvel homme? La parole de Dieu, qui est symbolisée par l'eau dans Jean 3. Quand nous entendons la parole de Dieu, et que cette parole est vivifiée par le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça produit? Le nouvel homme. Le nouvel homme qui est créé, est-il dit, selon Dieu. Le nouvel homme, c'est en quelque sorte l'enfant de la parole et de l'esprit. Le nouvel homme, c'est l'homme régénéré. Le vieil homme, c'est l'homme irrégénéré, notre ancienne manière de vivre. Le nouvel homme, c'est notre nouvelle manière de vivre. Depuis que nous avons reçu Christ, nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons vraiment une vie nouvelle. Et alors, est-ce que le vieil homme et le nouvel homme sont toujours ensemble? Non. Ce que vous devez y croire une fois pour toutes, c'est que votre vieil homme, votre ancienne manière de vivre, a pris fin où? À la croix. À la croix, le vieil homme a été crucifié. C'est fait. Vous n'avez pas à le faire mourir. Il a été crucifié. Cette ancienne manière de vivre a pris fin. Et ce vieil homme, il est enseveli. Mort et enseveli. Et vous en témoignez par le baptême. Mais alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la chair. Hein. La chair, elle est toujours en nous, puisque nous sommes des corps de chair, nous sommes encore dans la chair. Il reste la chair, mais la chair, en quelque sorte, elle a perdu son enfant à la croix. À la croix, l'enfant de la chair et du péché a été crucifié. Mais la chair, elle est encore là. Le vieil homme, cette manière de vivre, qui nous était inspirée par la chair, c'est fini. Mais la chair est là. Mais si nous sommes nés de Dieu, nous avons de nouveaux parents. Et qui sont nos parents? La parole, qui est votre mère en quelque sorte, et qui va vous nourrir du lait spirituel. Elle sait, cette parole, de quoi nous avons besoin. Alors, au début de notre vie chrétienne, cette parole est pour nous le lait. Elle nous donne du lait, comme une mère. Et puis ensuite, nous grandissons et nous recevons la viande. Nous n'en restons pas au lait, mais nous sommes éduqués et nous recevons la viande. Et nous sommes sous la direction de l'Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit, dans le chapitre 8 des Romains, que maintenant nous ne sommes plus débiteurs à la chair pour vivre selon la chair. Mais la chair est là. Elle a perdu son enfant. Et elle voit maintenant le nouvel homme. Et elle voudrait toujours influencer le nouvel homme. Mais j'ai dit, vous n'êtes plus débiteur à la chair pour vivre selon la chair. La chair, elle est là. Mais nous la tenons alors, cette chair, dans la mort. Cette chair, nous la tenons dans la mort. Parce que nous ne voulons pas nous laisser influencer par elle. Et nous disons à la chair, tu n'as plus rien à nous dire. Ce n'est plus la chair que nous suivons, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait marcher. Nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'Esprit. Et nous allons faire l'expérience de cette toute-puissance du Saint-Esprit. L'homme nouveau, l'homme régénéré, Oui, le nouvel homme, c'est le fruit de l'esprit et de la parole. Et ce nouvel homme, eh bien oui, il est encore dans notre chair, mais ce n'est plus la chair qui va l'inspirer. C'est le Saint-Esprit. Alors, demandons à Dieu qu'il nous aide à comprendre ces vérités et qu'elles deviennent pour nous une lumière et qu'elles éclairent toute notre marche et toute notre vie et que nous puissions, sachant que notre vieil homme est crucifié, que nous puissions maintenant marcher d'une manière entièrement nouvelle et que nous comprenions que le nouvel homme qui est né de Dieu est entièrement pour Dieu. Vous ne pouvez pas être à moitié pour Dieu. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que vous êtes entièrement pour Dieu. Et pour réaliser le plan de Dieu, nous avons à marcher maintenant sur une voie céleste. Une voie que le Seigneur lui-même a tracée. Marchant par l'Esprit, eh bien, qu'est-ce qui va nous conduire? C'est la vie de résurrection de Jésus. Nous allons connaître cette vie de résurrection. Nous allons connaître la vie du trône, et puis nous allons connaître une vie et qui produit des œuvres à la gloire de Dieu. Notre vie maintenant, c'est la vie de qui? De Jésus. Donc c'est une vie de résurrection. C'est une vie nouvelle. Et toutes choses sont faites nouvelles en nous. L'Écriture le dit. Les choses vieilles sont passées. Toutes sont devenues nouvelles. C'est clair. Maintenant, c'est des choses nouvelles pour nous. Et toutes ces choses nouvelles, elles sont de Dieu. Et toutes sont de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Toutes choses en nous sont nouvelles et toutes sont de Dieu. J'en prends conscience. Vous êtes de Dieu, je suis de Dieu, et nous devons être entièrement consacrés à qui? À notre Dieu. Il nous a sauvés pour que nous soyons de ceux qui marchent sur son chemin. Mais non seulement nous vivons de la vie de résurrection du Christ, Christ étant ressuscité, il s'est assis où? Dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les puissances spirituelles de méchanceté. Et nous-mêmes, il nous a pris où? Dans les lieux célestes. Et nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Donc nous devons connaître la vie du trône. Et nous devons combattre de dessus le trône, dans cette certitude que nous sommes dans le Christ et rendu agréable dans le bien-aimé, que vous n'avez plus à avoir de complexe de culpabilité, mais d'adoration, adorer, adorer le Seigneur. Le moine nous le disait, n'est-ce pas? Cet après-midi, que notre vie devait se passer dans l'adoration. On pouvait peut-être ne pas être pleinement d'accord avec leur manière d'adorer. Mais enfin, ça, c'est pas à nous de juger. Mais nous avons à vivre pour Dieu dans l'adoration, dans une contemplation active. On contemple le Seigneur pour agir comme lui. Et nous sommes conduits dans ce chemin-là, on le voit faire, mais tout ce qu'on ne voit pas dans le Seigneur, nous n'avons pas à le faire. Tout ce que nous n'entendons pas de lui, nous n'avons pas à suivre. Ce que nous avons à suivre, c'est sa voix. Mes brebis connaissent ma voix. Et puis, enfin, c'est une vie qui produit. Je trouve que c'est tellement merveilleux de penser maintenant que les bonnes œuvres, qu'est-ce qui va les préparer pour nous? C'est Dieu. Nous sommes sauvés, je termine par ce verset, Éphésiens 2, verset 10. Vous êtes sauvés par la grâce, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Le nouvel homme, c'est l'homme amélioré? Non. C'est l'ouvrage de Dieu. Et vous voyez comme ça rejoint ce que nous disons le matin. Notre corps, il est dit qu'il l'a tissé comme une broderie. C'était déjà l'ouvrage de Dieu. Et vous voyez la valeur de notre corps. Votre corps, ne le maîtrisez pas, il a une valeur. Et il a été créé d'une façon merveilleuse, d'une façon admirable. Mais votre corps n'est pas pour la corruption, n'est pas pour la souillure, n'est pas pour la fornication. Votre corps, il est pour Dieu. Retrouvez la destination de votre corps. Un corps pour Dieu. Un corps pour Dieu. Votre corps est pour Dieu. Nous sommes maintenant son ouvrage, spirituellement également. Le nouvel homme, c'est l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en qui? En Jésus-Christ. Comment est-ce que nous sommes morts? En Jésus-Christ. Mais maintenant, nous sommes créés en Jésus-Christ. Pour quelle raison?